Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et dans le cadre d'une nouvelle exposition dédiée à l'Hôtel des Archives nationales à Paris, je vous propose de découvrir l'histoire de la loi de dépénalisation de l'IVG promulguée le 17 janvier 1975. Une loi portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé, dont le discours devant l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974 reste l'un des plus poignants de la Ve République. En ce 8 mars 2024, journée internationale des droits des femmes, et alors que la date du lundi 4 mars 2024 est entrée dans l'histoire comme celle de l'inscription dans la Constitution française de la liberté garantie pour les femmes d'accéder à l'IVG, interruption volontaire de grossesse, les Archives nationales inaugurent le deuxième volet de leur cycle intitulé « Les Remarquables », où est présenté le manuscrit du célèbre discours de Simone Veil, ce discours prononcé devant l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Avec les Remarquables, les Archives nationales, situées dans le magnifique hôtel de Soubise au cœur du quartier du Marais à Paris, mettent en lumière chaque semestre un document emblématique de l'histoire de France à l'occasion d'une exposition au format très recentré. Après le rouleau d'interrogatoire du procès des Templiers de 1307 et dans un tout autre genre, sont exposés au public le manuscrit original et la version dactylographiée du discours de Simone Veil, prononcé en 1974 pour défendre le projet de loi de légalisation de l'avortement. J'y suis allé et je dois dire que l'émotion est grande lorsqu'on se retrouve face à ces documents historiques. Cependant, si la loi portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé du président de la République Valéry Giscard d'Estaing, est finalement adoptée le 17 janvier 1975, la route vers la dépénalisation de l'avortement en France fut longue et jonchée d'obstacles. En effet, après la légalisation de la contraception en 1967, en réalité appliquée en 1972 seulement, les engagements et combats pour les droits des femmes, et en particulier celui à disposer librement de leur corps, se focalisent sur la dépénalisation de l'IVG. Car malgré son interdiction, l'avortement est bel et bien une réalité en cette fin des années 60. Réalisées dans des conditions sanitaires dangereuses pour les femmes, ces opérations clandestines, estimées en 1962 entre 800 000 et 1 million, conduisent bien souvent à de graves complications, voire même à la mort des femmes concernées. On dénombre ainsi plusieurs centaines de décès annuels. Face à cette réalité, les voix s'élèvent en faveur de la dépénalisation de l'IVG, mais également pour permettre sa pratique sous contrôle médical. Le 5 avril 1971, le manifeste des 343, paru dans le Nouvel Observateur, présente la signature de 343 femmes françaises attestant publiquement d'avoir eu recours à l'avortement. Parmi celles qui clament haut et fort, je cite « Je me suis fait avorter », on trouve des personnalités publiques comme Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras ou encore l'avocate Gisèle Halimi. Cette dernière, Gisèle Halimi, va d'ailleurs devenir l'une des figures emblématiques de ce combat. En octobre et novembre 1972, à Bobigny, en banlieue parisienne, elle va en effet prendre en charge la défense d'une jeune femme, Marie-Claire Chevalier, qui, violée à l'âge de 16 ans, risque d'être condamnée pour pratique illégale de l'avortement, selon la loi de 1920 interdisant l'IVG et la, je cite, « propagande anticonceptuelle ». Sa mère et trois autres femmes sont également jugées pour complicité. Après un procès retentissant, Marie-Claire Chevalier est acquittée le 11 octobre 1972, suivie le 8 novembre par deux autres prévenus. Ce verdict fera jurisprudence et à partir de cette date, les condamnations pour avortement vont fortement diminuer. Car à la suite de ce procès, la lutte pour le droit à l'IVG se durcit et devient politique. Le 3 février 1973, le manifeste des 331, paru également dans le Nouvel Observateur, présente les signatures de 331 médecins affirmant avoir pratiqué des avortements. Le processus de dépénalisation est en marche. Nous sommes alors sous la présidence de Georges Pompidou, qui a présidé entre 1969 et 1974. Les ministres de la Justice successifs, René Pleven d'abord, puis Jean Tétinger, demandent au parquet de ne plus poursuivre les femmes ayant recours à l'avortement. Un premier projet de loi de dépénalisation est même également déposé. Un projet qui sera finalement repris dans le programme du candidat à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing, en 1974. Cependant, une fois élu, face au refus pour raison d'éthique personnelle de son ministre de la Justice, Jean Le Canuet, le nouveau président de la République va faire appel à sa ministre de la Santé, la désormais célèbre Simone Veil, pour porter cette loi controversée. Le 26 novembre 1974, à l'Assemblée nationale, dans un discours poignant et historique, elle présente son projet de loi de dépénalisation de l'avortement devant des députés majoritairement masculins et, pour une bonne partie, hostiles à cette loi. Après de nombreux débats animés et parfois violents, le 29 novembre 1974, à 3h40 du matin, la loi est finalement adoptée par 284 voix contre 189, des voix majoritairement de gauche et du centre. Le Sénat votera pour à 185 voix contre 88 et le texte final est finalement définitivement validé à l'Assemblée le 20 décembre 1974 par 277 voix contre 192. La loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse est ainsi promulguée le 17 janvier 1975, une date devenue historique. Simone Veil entre alors elle aussi immédiatement dans l'histoire. Mais qui est-elle? Qui est Simone Veil? Née le 13 juillet 1927 à Nice, déportée à 16 ans avec sa famille au camp d'Auschwitz, d'où elle ressort vivante avec ses sœurs, mais malheureusement sans ses parents ni son frère, Simone Jacob épouse Antoine Veil en 1946 avant de devenir haut fonctionnaire dans la magistrature. Nommée ministre de la Santé par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, elle se voit confier la lourde mission de porter le projet de loi de dépénalisation de l'IVG, une loi finalement promulguée en 1975, comme je viens de l'expliquer. Ensuite, présidente du Parlement européen entre 1979 et 1982, de nouveau ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville du gouvernement d'Édouard Balladur entre 1993 et 1995 sous la présidence de François Mitterrand. Elle sera membre du Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à l'Académie française le 20 novembre 2008. Simone Veil disparaît finalement le 30 juin 2017, et à la demande du président Emmanuel Macron, elle entre au Panthéon le 1er juillet 2018, où elle repose désormais avec son mari dans la célèbre crypte, aux côtés des grands et des grandes qui ont marqué l'histoire de France. Voilà, j'espère que le récit de cet épisode historique vous a plu. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnetsdigor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cet événement. Vous pourrez également y découvrir d'autres histoires et visites de milieux historiques et culturels favoris, mais aussi diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et enfin, avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des carnets d'Igor, ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigor.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.